À ne pas manquer au cours des prochaines minutes aux amateurs de sport, on s'entretient avec Joanne Villeneuve et Jean-Pierre Saint-Jacques, un ami de la première heure de Gilles Villeneuve, qui va nous raconter un voyage inoubliable en hélicoptère de Monaco à Imola, une rencontre avec Enzo Ferrari. Bref, un moment de radio à ne pas manquer pour les amants de sport automobile et les nostalgiques de Gilles Villeneuve. Mais dans un premier temps, retrouvons tout de suite Philippe Quentin. Bonsoir, Philippe.
Salut, Mario.
Je pense que tu as envie d'entrer dans la danse au sujet d'Eric Carlson. Est-ce que tu vois ça comme d'un œil... Comment vois-tu ça, la possibilité, premièrement, que Carlson souhaite avoir une offre du Canadien de Montréal, si l'information est véridique?
Ben voilà, si l'information est véridique, je trouve, Mario, que c'est une nouvelle extraordinaire. Quand tu penses au pied de nez que le Canadien s'est fait servir au cours des dernières années, l'an dernier, quand John Tavares est devenu joueur autonome, et Jeff Molson, dès le tournoi de golf du mois de septembre précédent, au moment où Tavares amorçait sa dernière saison avec les Islanders de New York, disait déjà que le Canadien était intéressé à ses service. Quand est arrivé le moment où Tavares était disponible, Tavares a dit « Venez même pas me voir à Los Angeles, ne vous déplacez pas. Non seulement j'irai pas à Montréal, mais prenez même pas la peine de venir m'offrir 11 millions par saison à Los Angeles, ça m'intéresse pas, j'irai pas là. » Alors, de voir aujourd'hui qu'une vedette de la dimension d'Eric Carlson, qui est encore un très grand joueur de hockey, qui a 29 ans, qui mélange d'expérience et un talent absolument fantastique, de voir qu'il serait potentiellement intéressé à venir à Montréal, une destination de l'avis même de Marc Bergevin, parce qu'il le dit à quelques reprises dans ses points de presse d'après le 1er juillet qu'il y a des joueurs autonomes qui ne veulent rien savoir de Montréal, ben de voir que Carlson pourrait être intéressé, je trouve ça une nouvelle fantastique.
Ben moi aussi, je trouve ça fantastique parce que ça fait une couple de semaines que je spécule sur la possibilité, sur l'hypothèse, avec la prémisse suivante, c'est que d'après moi, c'est le joueur, quand on parle de joueur vedette, c'est le joueur qui choisit. Et là, ben j'essayais de trouver des raisons logiques de voir un joueur de premier plan choisir Montréal. Et on peut en assembler quelques-unes avec Carlson, mais de là à apprendre qu'il souhaite avoir une offre du Canadien, encore une fois, si c'est véritable, là, je trouve ça vraiment très, très emballant. Ouais. Donc, t'as pas trop d'hésitation, en tout cas, spontanément, ta première réaction, malgré le fait qu'il va célébrer son 30e anniversaire de naissance dans 2-3 semaines, malgré le fait qu'on a déjà deux défenseurs droitiers comme Petrie et Weber, je fais l'avocat du diable, comme tu me vois venir, là, parce que j'ai fait la même réflexion. Donc, t'as pas trop de barrières,
non.
Là, Philippe.
Ouais, c'est le contraire. Non, je pense que ça serait une acquisition extraordinaire pour le Canadien. Oui, c'est vrai qu'il va coûter cher, mais regarde le contrat que Drew Doughty a eu avec les Kings de Los Angeles, un gars exactement du même âge, je pense qu'il est même un petit peu plus vieux, puis lui, il a eu 8 ans à Los Angeles, Doughty, parce qu'il a le droit à l'année supplémentaire, parce qu'il est demeuré avec son organisation. 8 ans, 11 millions, 88 millions. Alors, le Canadien pourrait peut-être avoir un gars comme Carlson pour 11 millions par année aussi. Là, je pense qu'il ne viendra pas à rabais à Montréal. C'est un gars qui va aller chercher le top dollar qui est disponible. Mais tu regardes les problèmes du Canadien depuis bientôt plusieurs années. Le jeu de puissance, c'est récurrent. Encore l'an dernier, ça a été un ennui majeur, cette incapacité à faire fonctionner le jeu de puissance. Hey, entre un nouvel entraîneur adjoint qui serait un spécialiste du jeu de puissance et qui pourrait arriver avec des solutions originales, mais tant mieux si le Canadien le trouve, mais la solution la plus immédiate, c'est un véritable quart arrière au jeu de puissance. Et ça, je pense que Carlson remplit magnifiquement cette tâche-là. Alors, imagine comment le jeu de puissance devient plus productif avec un gars comme Carlson. Imagine l'impact sur un gars comme Jonathan Drouin. Tout le monde se demande qu'est-ce que ça va prendre pour relancer Jonathan Drouin. Drouin, c'est un gars qui a un flair extraordinaire, des mains extraordinaires, une vision de jeu extraordinaire. Je pense qu'il pourrait faire sur le jeu de puissance et sans doute assez régulièrement également à 5 contre 5, un duo fantastique avec Carlson. Alors, pour moi, c'est gagnant et je vais même aller plus loin que ça, Mario. Ça serait bon non seulement pour le Canadien en tant qu'équipe de hockey sur la patinoire, les résultats, mais ça serait bon pour toute l'organisation, dans l'ensemble de l'image, du rayonnement, du retentissement de l'organisation, parce que ça démontrerait d'abord et avant tout que Montréal est une destination prisée par un joueur autonome de renom. Ça donnerait enfin une vedette de très, 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 très haute dimension au Canadien. C'est un joueur vedette, Eric Carlson, une vedette dans la Ligue nationale de hockey. C'est un ancien gagnant du trophée Norris, un joueur de hockey fantastique et au niveau du spectacle, en plus, pour les fans, c'est un joueur qui est tellement créatif, tellement habile, des mains sensationnelles. Ce serait fantastique de voir un gars comme lui dans l'uniforme du Canadien.
Ah, moi, j'adore, je suis un fan d'Eric Carlson et cette hypothèse-là m'emballe, il n'y a aucun doute. Maintenant, j'essaie d'être rationnel un petit peu puis, bon, t'amènes la comparaison avec Drew Doughty. Moi, dans le cas de Doughty, c'est un défenseur pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais moi, je pense que les Kings ont peut-être fait une erreur. Je pense que quand une équipe veut garder un joueur avec elle, on tombe dans la nostalgie, on tombe un peu comme... c'est pas une mauvaise décision, mais je vais mettre Carey Price dans l'équation. Tu sais, on s'est pas posé de questions trop du côté du Canadien. C'était la pierre angulaire de l'équipe. On l'a signé au montant que ça coûtait. Mais je suis pas sûr qu'avec Kopitar et Doughty, que les Kings vont voler vers les sommets dans le futur. Je pense qu'ils l'ont payé trop cher à cause de l'attachement au gars.
Ouais. Peut-être un peu un niveau récompense aussi. Il a quand même contribué à deux coupes cette année.
T'as raison.
Ça, peut-être qu'à quelque part, une organisation dit, hey, t'as été là, t'as joué du gros hockey, on va te donner une coupe d'année de plus, là.
Et peut-être qu'il va les ramener au sommet, puis tant mieux, je me trompe peut-être. Mais je ne sais pas si une équipe va vraiment offrir 11 millions de dollars par année à Carlson à quelques jours de ses 30 ans. Il va y avoir beaucoup, là. Et si je continue la réflexion, tu parles de 7 ans maximum, est-ce que tu suggérais à Marc Bergevin d'imiter les Flyers de Philadelphie qui sont allés chercher Kevin Hayes à Winnipeg, même s'il est en fin de contrat, pour avoir la possibilité de négocier avec lui direct là, puis le signer à Philadelphie? Est-ce que tu souhaiterais que Marc Bergevin fasse une transaction avec San Jose pour commencer à parler de Carlson dès maintenant?
Il y a deux éléments là, que tu soulèves. D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont offrir, mettons, 11 millions par année, qui est le salaire que gagnera maintenant Doughty, à un gars comme Carlson? On verra, mais il y a une chose qui est sûre, Mario, c'est que je ne me souviens pas d'une seule année dans les 5, 6, 7 dernières années où les montants payés aux joueurs autonomes le 1er juillet, où tout le monde a dit après, mon Dieu, c'est beaucoup moins que ce qu'on aurait cru.
C'est vrai.
C'est tout le temps le contraire. Mm-hmm. C'est tout le temps, David Backus a obtenu autant d'argent. T'sais, on est tout
mais
le
y
temps
y en a qui
étonnés.
Sont brûlés à cette date-là aussi,
ouais.
Philippe. Il y en a qui ont appris de ça.
Oui, mais des fois, la leçon, elle ne se transmet pas d'équipe en équipe parce que, encore une fois, ce sont des gros montants qui sont payés. Puis c'est normal, il y a de la pression, puis il y a une autre chose de gagner, puis il y a une autre chose, c'est que le plafond salarial augmente, les revenus de la Ligue augmentent. Donc, tu sais, en termes de pourcentage, ce qui était peut-être un 9 millions il y a 3-4 ans, c'est rendu 11 millions aujourd'hui, puis c'est à peu près le même pourcentage de la masse salariale. Alors, tu sais, j'ai l'impression qu'on justifie un certain nombre de choses comme ça.
Donc ça, c'est numéro 1. Donc, tu penses qu'il va pas chercher
en bas de 10? Oh non, certainement pas en bas de 10. Okay. Moi, ça peut arriver, là, mais je serais très, très étonné. Un défenseur comme lui, c'est un quart arrière dans une équipe, je pense qu'il va aller chercher vraiment énormément d'argent. Je me souviens à l'époque, même, ça peut remonter aussi loin du contrat de Subban. Il y avait les gens qui disaient, hey, il n'y aura jamais 8 millions par année, mais il y en a eu 9 finalement par année. Quand un joueur est en demande, dans le cas de Subban, c'était une dimension un peu différente, mais bon, le Canadien voulait le garder à ce moment-là. Alors, il y a eu plus probablement que ce que beaucoup de gens s'attendaient. Mmh. Et c'est un phénomène récurrent. C'est rare que tu vois un joueur vedette signé à moins. On commence à voir ça dans le baseball, mais pas pour les super grosses vedettes, évidemment, qui signent pour des fortunes, mais pour des joueurs de juste en bas des vedettes, ça, des fois, on voit ça, mais au hockey, je trouve que c'est pas encore comme une mesure. L'autre point, je trouve que, moi, ça m'apparaît un peu inutile faire un échange comme celui-là pour une raison très simple, c'est que aujourd'hui, les équipes ont le droit, avant l'ouverture du marché des joueurs autonomes, dans la semaine qui précède, de faire une première approche aux joueurs. Et ils peuvent venir visiter la ville, ils peuvent s'entretenir avec le directeur général, l'entraîneur, tout ça commence 4-5 jours avant le 1er juillet. Alors, il y a cette façon-là de faire, et je pense que c'est à peu près à ce moment-là que ça va se passer, parce que si tu te mets dans la peau de Carlson, disons que quelqu'un lui fait, achète ou obtient ses droits, un peu comme tu viens de le mentionner.
Il veut voir toutes les offres, lui.
Ben pourquoi il signerait tout de suite?
Comme Sundin dans le temps, ils avaient fait pour Sundin à l'époque.
C'est quoi l'avantage de faire ça? Il y en a pas d'avantage. T'es bien mieux d'attendre que tout le monde mette son offre sur la table, puis d'avoir le temps de voir qui va être là, puis comment ça va se passer. Alors, je vois pas l'avantage pour le joueur non plus. Alors, moi, je pense pas que c'est... À l'époque, là, où théoriquement, tu n'avais pas le droit de parler avant le 1er juillet à midi aux joueurs, peut-être que c'était une stratégie qui pouvait se défendre. Aujourd'hui, je pense pas que c'est le cas.
Il y en a qui pensent qu'il y a peut-être même une hypothèse ou une possibilité qu'il retourne à Ottawa. Ça, j'y crois moins, s'il a été loyal à cette organisation-là pendant de nombreuses années.
On les voit pas dépenser autant d'argent à l'heure actuelle. Ils viennent de prendre un virage jeunesse. C'est ça que tu regardes avec le Canadien. On en a parlé, toi et moi, le Carey Price. T'sais, combien d'années il va être patient encore, Carey Price? Mm-hmm. Il vieillit lui aussi. Chez Weber, là, il a jamais gagné la Coupe Stanley, lui non plus. Là, lui aussi, tout à coup, il va se dire, hey, si on a encore une chance de gagner la Coupe dans notre carrière, là, des gars comme Weber puis Price, c'est pas dans 5 et 6 ans. Peut-être Price sera encore très bon à 36-37 ans, mais on le sait pas. Là, c'est quand même un pari audacieux de croire qu'il pourrait être aussi efficace à cet âge-là. Alors, si tu es Marc Bergevin, puis tu dis, bon, ma fenêtre d'opportunité, moi, à l'heure actuelle, j'en vois pas de fenêtre d'opportunité pour le Canadien à court terme. J'en vois une uniquement...
Avec des acquisitions.
Oui, mais c'est ça. Mais à l'heure actuelle, avec l'équipe qui est là, à l'heure actuelle, avant les acquisitions, la fenêtre d'opportunité, elle va simplement arriver quand Kotkaniemi va être un joueur dominant dans la Ligue, mm-hmm. puis Poehling sera pas loin derrière, puis peut-être une coupe des autres jeunes dont on parle beaucoup, les Suzuki, les Romanov, seront dans l'équipe. Mais ça, c'est dans 3 ou 4 ans. Si tu veux devancer un peu ta fenêtre d'opportunité, peut-être pas pour l'an prochain, mais peut-être à l'année 3 de Kotkaniemi avec le Canadien, donc dans 2 ans. Puis là, tu as Price qui a 34 qui est encore capable, puis tu as Carson qui est là. Ben tu sais, ça peut changer la dynamique, ça peut peut-être donner une chance. Puis l'autre facteur aussi, tu sais, je sais que les gens disent, oui, c'est beaucoup d'argent, mais quoi, est-ce qu'on est mieux avec une équipe qui est largement sous le plafond salarial, comme c'est le cas depuis 2 ans?
Ben, il y a un timing. Quand tu regardes Toronto, leur situation, ils sont en bas du plafond salarial, ça fait des années. Mais là, à un moment donné, il faut que tu fasses des projections dans le temps. Combien Matthews ont coûté, combien Marner, combien Kapanen, combien si, je vais chercher Tavares.
Puis on voit combien c'est dur à gérer. Hein? C'est parce que regarde, Chicago n'a pas été vraiment capable. Los Angeles n'a pas vraiment été capable. Aujourd'hui, ce n'est pas des équipes qui sont sur la montée, puis ont des grosses masses salariales, puis sont pris avec des gros contrats. Mm. Alors, c'est assez difficile. Sauf que tout à coup, tu ne peux pas tout le temps penser en termes d'avenir, puis d'avenir, puis d'avenir. T'sais, et tout à coup, les gens. Jeff Molson, là, il aimerait ça que son équipe participe aux séries. Là. Est-ce qu'ils ont plus de chances de participer puis de faire un bout de chemin en série avec Eric Carson? Est-ce qu'il y a plus de chances que le Canadien rayonne? Est-ce qu'il y a plus de chances qu'il y ait encore un plus grand intérêt, t'sais, que les cotes d'écoute soient plus élevées, que les produits dérivés, on en vende davantage?
C'est sûr. Poser la question, c'est d'y répondre. Puis voilà. Marc Bergevin a confié avoir été agressé ces dernières années sur le marché des joueurs autonomes. Clairement, il n'a pas été récompensé par la récolte qu'il a obtenue par des signatures de contrat. Donc, de ne plus l'être, ça serait surprenant là, quand on sait qu'il était prêt à accueillir Tavares malgré l'âge. Alors, si tu sais qu'un gars de cet acabit-là, de ce profil-là, est intéressé à venir à Montréal, c'est sûr que tu évalues ça très, très, très sérieusement.
Ouais, pis,
c'est difficile de tourner le dos à ça, mais à moins que l'aspect rationnel du budget, comme il l'a fait, parce que là, je m'appuie sur sa décision avec Radulov, t'sais, à moins que ça l'amène à dire non, je m'en vais pas dans cette direction-là.
C'est ça. Puis l'aspect rationnel du budget, on voit où s'amener le Canadien, là, une absence des séries plus souvent qu'autrement dans les dernières années. Alors, ça n'a pas été couronné de succès. Ça serait peut-être temps de changer de stratégie, parce que je pense que les gens, tout à coup, Mario, ils vont en avoir assez d'entendre dire, c'est trop d'argent. Puis là, ils voient que l'équipe est quoi, 10 millions sur le plafond salarial. Puis, on n'a pas d'opportunité. On peut pas faire ça. Si tu fais les séries, puis tu gagnes une ronde ou deux, peut-être que ça se défend, mais quand t'es écarté des séries puis que t'es raté par quelques points, tout à coup, ça devient indéfendable.
En attendant, bien Saint-Louis, encore une fois, réplique aux Bruins de Boston, c'est l'égalité 2-2 dans la série, et puis... On pensait que ça pouvait être une longue série, mais là, les Blues ont rendu ça possible hier.
Ouais. Je dois avouer, j'ai été un peu étonné. Après la performance des Bruins dans le match numéro 3 à Saint-Louis, ils ont été tellement dominants, ils ont été tellement impressionnants. Tu sais, moi, j'étais vraiment, je le dis, dans le groupe des gens qui croyaient que, regarde, cette série-là va se terminer en 5, ils vont gagner le match numéro 4 à Saint-Louis, et ils vont venir célébrer la Coupe Stanley sur leur patinoire 2 jours plus tard. Mais ça n'a pas été le cas. Alors, franchement, les Blues, quelle détermination. Et puis, ce que j'ai vu des Blues, hier, c'est ce qu'on a vu quand ils ont fait leur virage en début de saison, alors qu'on les croit pour battus. Ben, eux, ils ne se croient pas pour battus, puis ils continuent de se battre. C'est ce qu'ils ont fait en janvier, c'est ce qui leur a permis de regrimper au classement général, et c'est ce qu'ils font en finale de la Coupe Stanley.
La suite de cette finale de la Coupe Stanley à compter de jeudi, on va regarder les Raptors contre les Warriors entre-temps demain soir. Philippe, merci beaucoup et excellente soirée.
Merci, salut Mario.
Salut, et au retour, Joanne Villeneuve et M. Jean-Pierre Saint-Jacques, qui a été un ami de Gilles Villeneuve. Il lui a même construit la première Formule Ford qu'il a pilotée. Beaucoup d'anecdotes à raconter au retour.